Vous écoutez « On lit pour vous ».
Risque programmé. Un texte de Maxim Johnson publié dans l'actualité édition de novembre 2025. En sous-titre, « Même des novices peuvent maintenant créer des logiciels fonctionnels à l'aide de l'intelligence artificielle », une pratique qui inquiète les experts en cybersécurité. Plus nécessaire d'avoir suivi le moindre cours de programmation pour créer une application ou un logiciel. Une intelligence artificielle comme Bolt ou Lovable est désormais en mesure de le faire en moins de deux. Il suffit de décrire à l'outil le résultat que l'on souhaite obtenir et il génère le code informatique. Il est même capable de corriger ses propres bugs. Amusante pour les codeurs du dimanche, cette pratique présente toutefois des risques bien réels pour le public qui utilise ensuite ces applis, prévient Futsus Kom, professeur au département de génie informatique et génie logiciel de Polytechnique Montréal. Citation : Les intelligences artificielles sont bonnes pour générer du code qui fonctionne, mais pas nécessairement pour générer du code sécuritaire. Déplore-t-il, fin de citation. Un récent rapport de l'entreprise de cybersécurité Guardio a d'ailleurs révélé que 10 % des applications conçues par l'outil d'intelligence artificielle Lovable et mises en ligne comportaient d'importantes failles de sécurité. Des pirates informatiques qui savent où chercher pourraient par exemple profiter de ces failles pour voler les informations personnelles des utilisateurs comme leur numéro de carte de crédit ou leur date de naissance. Citation, et les problèmes engendrés par l'intelligence artificielle peuvent empirer avec le temps, car c'est un code qui peut être difficile à mettre à jour, souligne Stéphane Monnier, professeur au département d'informatique et de recherche opérationnelle à l'Université de Montréal. Il peut, par exemple, être fonctionnel dans une situation précise, mais pas conçu pour pouvoir évoluer par la suite, ou l'application peut se mettre à planter à répétition. Et malheureusement, pour le grand public, les boutiques d'applications, les logiciels créés de cette façon, sont indiscernables de ceux codés à la mitaine. Seuls indices qui peuvent mettre la puce à l'oreille, ils sont récents et le plus souvent lancés par des développeurs indépendants plutôt que par des entreprises établies. Programmer en utilisant l'intelligence artificielle est une tendance nouvelle, mais déjà bien ancrée et pas juste parmi les Kidam. Ainsi, 9 % des développeurs américains le feraient déjà, au travail ou dans leurs loisirs, d'après un sondage réalisé par la plateforme de développement GitHub. Adepte de la pratique, Andrei Karpathy, l'un des cofondateurs d'OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, a même inventé, en début d'année, un terme pour en parler. Vibe Coding, V-I-B-E et Coding, C-O-D-I-N-G, qu'on pourrait traduire par « programmation à l'instinct ». Si le code généré est vérifié par un humain compétent, l'intelligence artificielle peut représenter un outil prometteur, estime Futsus Kom. Grâce à l'intelligence artificielle, les développeurs peuvent en effet écrire du code plus rapidement, modifier un langage informatique qu'ils maîtrisent moins ou générer du code pour un usage peu risqué comme changer la mise en page d'un site web. Stéphane Monnier croit aussi que le vibe coding est indiqué pour accélérer la création de prototypes. C'est justement dans cet esprit que le vice-président des ventes et du marketing de l'entreprise technologique SBI, Jean-Luc Sancartier, et sa conjointe omnipraticienne ont récemment commencé à concevoir un logiciel pour aider les médecins dans leur pratique. Il ne leur a fallu que quelques soirées pour obtenir un logiciel fonctionnel, même si aucun des deux n'est programmeur. Cette initiative personnelle pourrait bien devenir plus sérieuse. Citation, Si on lance le produit et qu'on a besoin d'une base de données sécurisée, on n'utilise pas le code qu'on a généré, note Jean-Luc Sancartier. Nous allons faire appel à des professionnels et complètement le réécrire. Mais pour montrer de quoi l'application pourrait avoir l'air, c'est parfait. Fin de citation. Et fin de ce texte de Maxime Johnson, titré « Risques programmés » au pluriel, publié dans l'actualité édition de novembre 2025.
La magie de Noël dans le cœur de Pablo, un texte de Maria Fernanda Arensen, publié le 14 décembre 2025 dans La Liberté. Ma vie avec un frère exceptionnel. J'ai la chance d'avoir un frère exceptionnel, Pablo, qui a une trisomie 21. Notre quotidien est chargé d'une exceptionnalité qui m'invite à voir le monde autrement. C'est ce que je souhaite partager. Nous venons d'une famille catholique argentine. Dans l'hémisphère sud, Noël se célèbre en plein été. Il arrive en même temps que la fin de l'année scolaire et le début des grandes vacances. Toutes les familles se réunissent la nuit du 24 décembre dans une atmosphère de célébration intense. Quand nous étions petits, on allait à la messe de minuit, puis on rentrait pour un festin. Après minuit, nous pouvions enfin ouvrir nos cadeaux, les yeux brillants de joie. Mais pour les enfants, il y a une autre fête qui faisait battre nos cœurs avec force. C'était l'aube du 6 janvier. C'est à ce moment-là que nous recevions les cadeaux des rois mages, comme l'enfant Jésus a reçu l'encens, la myrrhe et l'or. Si on avait été gentil pendant l'année, on écrivait une lettre au roi mage. La veille au soir, le 5 janvier, on mettait nos souliers à la fenêtre ou à la porte de nos chambres. Et quelque part dans la maison, on déposait de l'eau et de l'herbe pour les chameaux qui auraient besoin de se ressourcer. Le 5, c'était impossible de s'endormir tant l'excitation était grande. Et le 6 au matin, on se réveillait à l'aube pour découvrir nos merveilleux cadeaux. Ma mère décorait toujours un bel arbre de Noël avec des lumières colorées et des guirlandes. Et la belle crèche, avec ses anges, ses bergers, ses animaux, Joseph, Marie et Jésus, était installée dans la cheminée. Depuis notre plus tendre enfance, cette tradition a été cultivée avec amour dans notre famille. Pablo l'a gardée vivante dans son cœur, peut-être plus que nous tous. Puis nous avons émigré au Canada, et là, tout a changé pour Pablo. Au Manitoba, le 6 janvier, il fait beaucoup trop froid pour mettre ses souliers dehors. Et puis, ici, la tradition des rois mages n'existe pas vraiment. Alors Pablo, dans son cœur immense, a trouvé sa propre solution. Il a fusionné ces deux fêtes. Il célèbre Noël et les rois mages en même temps, réunissant dans un seul moment magique les deux traditions qu'il chérit. Et c'est ainsi que, depuis son arrivée au Canada, il met ses souliers sous l'arbre de Noël, à l'intérieur de la maison, bien au chaud. Maintenant que mes filles sont devenues des jeunes adultes, nous passons Noël chez elles à Montréal. Pour Pablo, ces retrouvailles ont pris une dimension encore plus spéciale. C'est un voyage vers un espace précieux où il est entouré d'amour, où résonne le rire de ses nièces, où la joie d'être ensemble remplit chaque pièce. Il attend la veille de Noël avec une impatience qui déborde. Mais Pablo s'exprime par gestes et il ne peut pas vraiment compter les jours. Alors, lorsqu'on lui explique que Noël c'est dans 3 jours, dans 4 jours, il nous écoute, mais le temps reste pour lui un concept abstrait. Il ne prend donc aucun risque. Chaque soir, sans faute, il met ses souliers à côté de l'arbre de Noël. Chaque soir, il espère. Chaque soir, il fait acte de foi. C'est son dialogue silencieux avec la magie de Noël, avec les rois mages, qui viendront peut-être cette nuit-là. Les décorations de Noël sont pour lui une partie essentielle de la fête, presque aussi importante que les cadeaux eux-mêmes. Il exige des lumières partout, dans chaque coin. Avec les lumières modernes qu'on contrôle à distance, il a appris à manipuler tous les contrôles avec une habileté surprenante. Il adore les faire clignoter, changer de couleur. Mais le soir, quand vient l'heure de se coucher et qu'on doit éteindre toutes ces lumières, il est visiblement frustré, même s'il tombe de sommeil. Son corps dit fatigue, mais son cœur dit encore fête. Il exprime alors son impatience en pointant les cadeaux sous l'arbre avec persistance, nous demandant par ses gestes répétés « Mais quand est-ce qu'on va enfin ouvrir les cadeaux ?» L'an dernier, à Montréal, ma fille avait acheté un grand Père Noël gonflable et l'avait installé sur le balcon. Pablo était absolument ravi. Plusieurs fois par jour, il dirigeait ses yeux vers le balcon pour vérifier que le gros Père Noël était toujours là, avec son énorme sac de cadeaux. Un soir, j'ai vu que le Père Noël était complètement dégonflé. Quand ma fille est rentrée du travail, je lui ai dit à la blague, sans réfléchir, « Ton Père Noël est mort ». Tout de suite, je l'entends s'exclamer avec urgence en me signalant Pablo. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Je tourne mes yeux vers mon frère et je vois ses yeux à lui grands ouverts, pleins de larmes qui commencent à couler. J'ai compris instantanément. Pablo comprend tout littéralement. J'ai eu tellement de peine, je ne savais pas comment réparer ce que j'avais dit. On s'est précipité pour aller regonfler le Père Noël et peu à peu, en le voyant reprendre forme, Pablo s'est calmé. Cette expérience m'a rappelé qu'avec Pablo, il ne faut jamais faire de blagues au sujet de Noël. Chaque Noël est magique pour nous, pas seulement à cause de Noël, avec ses traditions, mais aussi à cause de l'émerveillement que Pablo apporte à notre famille. Il nous offre son regard frais et pur sur ce qu'est la vraie joie. La joie des retrouvailles après des mois de séparation. La joie de rire ensemble, de partager nos histoires. La joie de perpétuer nos traditions, ces fils invisibles qui nous relient à notre enfance, à l'Argentine, à nos parents. La joie d'avoir cet immense bonheur d'être ensemble et de voir Pablo heureux parmi nous. Pour les chrétiens, Noël célèbre la naissance de Jésus, l'espoir qui renaît, la promesse du retour de la lumière, l'arrivée de celui qui donne un sens à la vie par l'amour. Je ne sais pas si Pablo est capable de comprendre la dimension spirituelle de Noël dans ces termes, mais ce que je sais, c'est qu'il la vit d'une manière profondément humaine et authentique. Chaque soir, quand il dépose avec soin ses souliers sous l'arbre, Pablo nous enseigne quelque chose de précieux. Il nous montre que la foi n'a pas besoin de calendrier, que l'espérance ne se mesure pas en jours comptés et que la magie existe vraiment quand on y croit de tout son cœur, sans réserve, sans cynisme, avec pureté et confiance. C'était « La magie de Noël dans le cœur de Pablo », un texte de Maria Fernanda Arensen, publié le 14 décembre 2025 dans La Liberté.
Quand les parents s'en vont, la fratrie à la croisée des chemins. Un texte de Joanne Mercier, paru à l'hiver 2026 dans Virage. À 50 ans et plus, perdre ses parents fait partie de l'ordre des choses. N'empêche, leur départ peut provoquer un véritable séisme. Une fois la secousse passée, un nouvel équilibre familial se dessine. Il est souvent fragile, parfois libérateur. Redéfinition des rôles, besoin d'appartenance, envie de rupture. Comment la fratrie se réinvente-t-elle quand la figure parentale disparaît pour de bon? La dynamique d'une famille, qu'elle soit tissée serrée ou dysfonctionnelle, se construit au fil des décennies. Consciemment ou non, nous endossons souvent des rôles dictés par notre rang de naissance ou notre personnalité. Mais lorsque les parents disparaissent, ce moule se fissure. Il ne fait aucun doute qu'après le décès des parents, la cellule familiale se transforme, souligne la psychologue José Jacques. Les rôles changent parce qu'on n'a plus besoin de plaire aux parents, d'obtenir leur approbation ou de se conformer à certaines de leurs exigences. Le champ est maintenant libre. L'éclatement du moule. Ainsi, le décès des parents provoque souvent une remise en question chez les enfants qui cherchent à exprimer leur véritable personnalité au-delà du carcan imposé. Par exemple, on ne devrait pas s'étonner de voir sa sœur mettre fin à un couple chancelant ou son frère, habituellement très responsable, partir pour un road trip de 6 mois au Portugal en nous laissant la responsabilité de la succession. C'est la perte des repères habituels qui incite à se redéfinir, explique la psychologue. Face à ces nouveaux enjeux relationnels, les émotions affluent et exigent une grande capacité d'adaptation, surtout dans le cadre d'une succession difficile ou lorsque les conflits non résolus refont surface. Autant de facteurs qui compliquent le processus de deuil et peuvent fragiliser les liens familiaux. Les forces de la famille qui seront déterminantes pour retrouver une nouvelle harmonie sont la capacité de se parler, d'affirmer ses besoins et d'écouter ceux des autres, mentionne Madame Jacques. L'idéal est de pouvoir s'exprimer sans jugement. Il faut aussi faire preuve d'une certaine tolérance à l'ambiguïté, car dans cette dynamique inconnue, les choses ne sont pas toujours aussi claires qu'avant et qu'on le souhaiterait. Par exemple, les personnes qui trouvent réconfort dans le contrôle risquent de vivre cette transition avec difficulté. Il arrive même que des enfants habituellement dominés s'affirment haut et fort, tandis que les leaders ressentent le besoin de prendre du recul. Dans cette réorganisation, la confiance et le respect sont des ingrédients de base. Des liens essentiels? Même si cela peut sembler tout naturel, est-il nécessaire, voire essentiel, de maintenir les liens familiaux après la mort des parents? Nous avons tous un besoin d'appartenance, et avec la fratrie, nous partageons un modèle parental, des valeurs communes, des liens de sang, des complicités et des secrets. Bref, notre propre histoire. C'est pourquoi il vaut la peine d'investir dans une relation différente après la mort des parents, soutient José-Jacques. Et même si elle n'est pas idéale, ni aussi satisfaisante que celle que l'on entretient avec les amis que l'on s'est choisis, elle a une valeur inestimable. Sachons cependant qu'une relation se maintient lorsque les gains surpassent les coûts, et aussi lorsqu'il y a réciprocité. Quand tout va bien, on peut croire qu'on n'a pas besoin de sa famille. Mais si l'on traverse un moment de vulnérabilité, on se tourne souvent instinctivement vers les siens, convaincu que, la plupart du temps, notre appel à l'aide sera entendu et notre détresse mieux comprise. Pour combler ce besoin d'appartenance à un clan, il arrive que frères et sœurs s'éloignent peu à peu, privilégiant leur propre cellule familiale centrée sur leurs enfants et petits-enfants. Les anniversaires et autres rituels annuels s'organisent alors uniquement autour de ces derniers. Or, cette tendance met souvent de côté les membres de la fratrie qui n'ont ni partenaire de vie ni descendance. Ceux-ci se retrouvent bien souvent seuls et orphelins à plus d'un niveau. Rupture, libération ou perte? Le décès du dernier parent est parfois l'occasion de rompre avec ses frères et sœurs, de se libérer d'un malaise, de vieilles rancœurs ou de conflits interminables. En coupant enfin les ponts avec ses relations superficielles, maintenues pendant des années par crainte de décevoir maman ou papa, on peut se dire « fini les courbettes, terminé la comédie ». Mais attention, il arrive que cette coupure soit plus difficile qu'on ne l'imagine sur le plan émotionnel, prévient José-Jacques, qui lance ici une mise en garde à ceux et celles qui vivent encore un conflit ouvert avec un frère ou une sœur. S'il y a une grande charge émotive lors de vos discussions, il serait préférable d'entreprendre une démarche pour régler ce différend, car il peut gâcher d'autres aspects de la vie. Une fois à l'âge de la retraite, on devrait avoir fait la paix avec les querelles enfantines. Enfin, il ne faut pas minimiser le fait que le décès des parents réveille une conscience de la finitude et un désir de retour à l'essentiel. En s'affranchissant de l'autorité parentale, certaines rivalités s'effacent, des tensions s'apaisent, puisque la majorité des conflits étaient nourris par une dynamique désormais disparue. Chaque personne ayant forgé sa personnalité au contact du monde extérieur à la cellule, c'est l'occasion de se redécouvrir comme des adultes à part entière, plutôt que de se percevoir éternellement comme le petit frère irresponsable ou la grande sœur contrôlante. Cette époque est morte et enterrée. C'était « Quand les parents s'en vont, la fratrie à la croisée des chemins », un texte de Joanne Mercier paru à l'hiver 2026 dans Virage.
Quoi faire et ne pas faire pour aider à se rendormir la nuit? Un texte commandité, paru le 24 novembre 2025 dans la presse. C'est le milieu de la nuit et votre esprit est en pleine ébullition. Vous angoissez déjà à l'idée d'une autre journée minée par le manque de sommeil. Que pouvez-vous y faire? Voici quelques recommandations pour mieux gérer les éveils nocturnes. Appliquées individuellement, ces consignes ont un effet modeste. Mais en les combinant soir après soir, vous favoriserez un sommeil réparateur.
ne regardez pas l'heure. Compter les minutes restantes à votre nuit pourrait accroître votre stress et nuire à votre endormissement. Pour résister à la tentation d'un coup d'œil rapide, retournez votre réveil matin contre le mur et ne touchez pas à votre téléphone ou à votre montre intelligente. Comptez à l'envers. Vos pensées refusent de se taire. Détournez votre attention vers une tâche monotone, comme un long décompte à l'envers. Commencez par 1000, puis reculez lentement en respirant profondément. Cette distraction pourrait occuper votre esprit jusqu'à ce que le sommeil revienne. Ignorez votre téléphone. La lumière bleue qu'émettent les appareils électroniques perturbe la production de mélatonine, l'hormone responsable de réguler l'éveil et l'endormissement. Évitez de manipuler votre téléphone la nuit et dans l'heure précédant le coucher. Contractez et relâchez vos muscles. La relaxation musculaire progressive, RMP, offre un moyen rapide et accessible d'apaiser les tensions et de favoriser l'endormissement. Concentrez-vous d'abord sur vos pieds. Contractez vos orteils et vos muscles pendant 5 à 10 secondes, puis détendez-vous. Respirez profondément. Répétez l'exercice avec vos jambes, votre dos, votre ventre, vos bras et votre visage. Pratiquez cette technique chaque soir au coucher pour en maximiser l'efficacité lors des éveils nocturnes. Levez-vous et changez de pièce. Si vous n'arrivez pas à vous rendormir après une vingtaine de minutes, sans regarder l'heure exacte, changez d'environnement. Passez au salon et installez-vous confortablement pour lire ou colorier. L'idée est de distraire votre esprit sans le stimuler pleinement. Ne retournez au lit que lorsque vous sentez que la fatigue vous gagne. Évitez la lumière vive. Lors des éveils nocturnes, maintenez un éclairage le plus faible possible, juste assez pour lire avec un certain effort. Davantage de lumière pourrait perturber votre horloge biologique et signaler à votre corps qu'il est temps de se lever. Ne travaillez pas et n'accomplissez pas de tâches. La nuit doit demeurer associée au repos dont votre corps et votre esprit ont besoin. Ne cherchez pas à rendre ce temps productif, par exemple en travaillant à l'ordinateur ou en cuisinant. Ce genre d'activité stimule votre cerveau au mauvais moment et pourrait devenir une habitude. Après une nuit difficile, gardez le même horaire. Même si la fatigue semble insurmontable une fois le matin venu, résistez aux tentations de faire la grasse matinée, de vous adonner à une sieste pendant la journée ou de vous coucher plus tôt. Ce décalage risque d'entretenir le problème. Efforcez-vous plutôt de respecter votre horaire habituel et utilisez ce besoin accru de sommeil pour réinitialiser votre horloge biologique. Consultez une professionnelle ou un professionnel de la santé. Si les troubles du sommeil persistent, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacienne ou pharmacien. Ces derniers pourront évaluer votre situation, identifier les causes possibles et vous orienter vers les solutions les plus adaptées. Cela peut inclure des approches comportementales ou, si nécessaire, des produits en vente libre ou sur ordonnance. Lâchez prise. Paradoxalement, tenter de forcer le sommeil ne fait qu'entretenir la frustration et l'éveil. Abandonnez-vous plutôt à l'instant présent et laissez le repos s'installer naturellement. Après tout, votre corps sait comment dormir. Il l'a fait des milliers de fois auparavant. C'était « Quoi faire et ne pas faire pour aider à se rendormir la nuit », un texte commandité paru le 24 novembre 2025 dans la presse.
Masculinisme et conclave dans les 10 mots de 2025 selon le Robert. Un texte de l'Agence France-Presse paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir. Masculinisme, conclave, submersion et wesh font partie des 10 mots dont la consultation a le plus progressé cette année sur le site du dictionnaire Le Robert dans les pays francophones, a annoncé son éditeur. Ces mots consultés sur le site gratuit Dico en ligne Le Robert recoupent les temps forts de l'actualité et illustrent les pics d'intérêt des internautes, souvent révélateurs des sujets les plus questionnés dans le débat public, indique Le Robert, qui revendique plus de 50 millions de pages vues entre le 1er janvier et le 1er décembre 2025. Masculinisme est celui dont la consultation a le plus augmenté avec un bond de 800% sur un an. Porté par des influenceurs populaires sur les réseaux sociaux, ce mouvement hétérogène prône un retour à des valeurs traditionnelles et s'en prend aux féministes. Le débat sur cette mouvance a été notamment relancé au printemps par la série Netflix Adolescence, sur un jeune de 13 ans baignant dans l'idéologie masculiniste accusé du meurtre d'une camarade de classe. Le mot « conclave » a connu une année exceptionnelle, selon Le Robert, qui l'explique par deux faits d'actualité. Le conclave sur la réforme des retraites en France au début de 2025 et celui organisé à Rome pour désigner un nouveau pape après la mort de François le 21 avril 2025. Parmi les autres mots les plus consultés, on trouve « wesh », un terme multi-usage tiré de l'arabe algérien qui sert à interroger et à saluer, notamment chez les jeunes. Mais aussi « eugénisme », « entrisme », séditieux, submersion et vassal, qui ont également connu des hausses notables de consultation. Parmi eux figure le mot désuet gougnafié qui a connu un bref coup de projecteur en juin au Sénégal, où un haut responsable a utilisé ce terme pour critiquer l'actuel président Bassirou Diomaye Faye, provoquant une polémique. C'était masculinisme et conclave dans les 10 mots de 2025 selon le Robert. Un texte de l'Agence France-Presse paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir.